Bonjour et bienvenue dans cette interview de la Q-Unit, la communauté dédiée au Quality Engineering. Iman Benlekeal est régulièrement intervenu dans nos tables rondes en partageant l'importance du pourquoi et du pourquoi en deux mots. Elle est également à l'origine du concept Shift Left and Spread avant de parler de Shift Left ou de Shift Right. Possédant plus de 15 ans d'expérience dans le test et la qualité logicielle, elle apporte sa perspective humaine fondamentale à la qualité que je vous laisse découvrir. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, en vidéo et avec un transcript sur le site. Une bonne écoute, souscrivez pour les prochains épisodes. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans cette interview de la Q-Unit. Donc aujourd'hui sur le podcast français, je reçois Iman Benlekeal. Et donc, hello Iman, on se connaît déjà, tu es déjà vachement passé dans les tables rondes, donc je pense que ta tête sera connue. Tu vas bien ?
Oui, bonjour Antoine. Oui, très bien. Et toi ?
Ça va. Bon, aujourd'hui, on a préparé une petite trame, là, mais du coup, ça va être plutôt un échange autour de la transversalisation de la qualité. Je pense que le meilleur pour contextualiser ce qu'on va discuter, c'est déjà de te présenter. Je sais que tu as une expérience internationale, tant personnelle que professionnelle. Donc, je te laisse nous faire un petit panorama.
Ça marche. Effectivement, Antoine, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans le test, donc dans vraiment différents domaines, parce que j'ai tenu à cœur de diversifier les domaines et les secteurs, de faire des secteurs normés et pas normés. Il y a une partie de l'expérience que j'ai faite en France et depuis 3 ans environ, je suis au Canada, au Québec particulièrement. Donc, ce qui me permet effectivement d'avoir une expérience internationale tout en restant dans le même métier. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé et beaucoup déménagé dans mon enfance, on va dire environ tous les 3 ans. Hein. C'était la moyenne jusqu'à mes 20 ans à peu près. Donc, oui, c'est un bon rythme. Et par la force des choses, on a notamment déménagé dans différents pays de culture et de langues complètement différentes. Mm-hmm. Et mes parents ont voulu me mettre dans une école nationale donc, ouais. Où j'étais obligée d'apprendre les langues. Donc, effectivement, ouais, c'était un peu compliqué. Chaque fois, il fallait refaire et apprendre la langue. Et c'est vrai que, mine de rien, mon père, pour le coup, il a eu raison que j'allais le remercier un jour. Et effectivement, je le remercie aujourd'hui parce que ça m'a appris 2 choses que je ne savais pas. Quand on m'a dit « oui, mais toi, tu as cette force-là », c'est l'adaptation et l'observation. Parce qu'effectivement, quand on est enfant ou plus ou moins ado et qu'on arrive dans un pays et qu'on ne connaît pas la langue, voilà, ça on observe. On voit bien les gens, comment on s'adapte exactement à différentes cultures, différentes façons de voir les choses. Donc, c'est vrai que c'est des atouts qui font partie de mon identité, mon caractère, et c'est des choses que je traîne partout dans tous les projets. Et cette neutralité que j'ai quand je vais voyager, quand j'aborde et que j'observe, par curiosité surtout les autres cultures, et plus elle est différente, plus pour moi elle est attrayante. J'ai les mêmes choses dans les projets, j'appréhende chaque projet différemment.
Ouais, comme si un nouveau projet, comme si tu avais une nouvelle expérience.
Exactement, bon, avec quelques outils pour
accélérer,
pour accélérer.
Repartir de zéro à chaque fois.
C'est ça, mais voilà, c'est exactement ça. Mais ma curiosité, ma soif d'apprendre de l'autre sont très forts, et c'est ce que j'aime du coup dans mon métier. Ça correspond vraiment à ce que je recherche.
Ok, ouais, je pense qu'on aura des sujets à mon avis justement autour de l'adaptation, vu que c'est un sujet de plus en plus transverse, mais on va y venir, j'imagine. Et du coup, toi, tu as 15 ans d'expérience, donc je pense que tu as plein d'anecdotes à raconter et surtout plein de projets réalisés. Mais si tu prends un peu de recul au cours de ces années ou même de tes priorités aujourd'hui, c'est quoi, toi, quand tu t'interviens autour des sujets de qualité logicielle, test, etc., c'est quoi pour toi les grandes priorités que tu retiens?
Alors, C'est vrai que ce que je vais, ma réponse va être vraiment internationale, hein, si je peux dire, donc valable pour la France, pour ici au Canada, au Québec, quel que soit le projet, j'ai observé les mêmes choses. La première chose importante, puisque c'est mon métier quand même, c'est l'incompréhension de la qualité. Voilà, on n'a pas tous toujours la même compréhension de notre intervention, du niveau de l'intervention, de ce qu'on doit faire, de ce que cela implique et des conséquences. Donc ça, clairement, c'était un manquement dans la majorité des projets.
Toujours un brouillard initial en fait, ou là, qu'est-ce qu'ils viennent faire, pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont changer et tout.
Voilà, ou sinon, si vient, ils t'attendent, mais ils n'avaient pas réalisé que ton intervention allait au-delà de ce
Jusqu'à un
que.
certain point, c'est ça.
Voilà. Pour eux, ils pensent que tu testes, mais tu testes après le développement. Et voilà, donc quand tu commences à poser des questions dès l'analyse, là, c'est waouh, attends. Tu
Oula,
viens où là? Pourquoi tu es là?
ouais,
Donc, il y a ces, voilà, des petits ajustements à faire, mais disons que c'est vraiment général, hein,
ça.
cette observation. La deuxième observation, je dirais que c'est les silos naturels qu'on se crée. Et ça, c'est vraiment, même si on est agile, d'accord, si on est agile et qu'on travaille tous dans la même équipe et qu'on se comprend, etc. Il y a un moment quand on est toujours sur le même sujet et qu'on le creuse, qu'on l'analyse, pardon, eh bien oui, il y a un moment où on perd ce recul et donc on se
Départ
crée un
s'enfermer en
silo.
fait dans ses habitudes, sa zone de confort,
Exactement.
c'est plutôt le comportement humain qui reprend le dessus, quoi, c'est ça.
Complètement. Et on a tendance à ne voir que ce qu'on a analysé, on a approfondi, mais on l'a tellement approfondi
On a perdu le
qu'on a
recul en plus complètement.
on perd le recul et on perd le vrai sens. C'est valable pour une analyse fonctionnelle que pour même un test. C'est-à-dire qu'on va tellement redescendre dans le bout de petits tests que des fois, on se dit, est-ce qu'on peut revenir sur quel est l'objectif de ton test? Et voilà, rappeler c'est quoi ces objectifs-là, c'est important. Et c'est facile quand on ramène une personne en dehors du projet parce qu'elle a le recul naturel parce qu'elle vient d'arriver. Et elle guide plus facilement. Donc, c'est bien d'avoir une organisation qui met
Un peu plus de
en
feedback loop
contact.
là-dessus pour vérifier ce que ce qu'on est en train de faire. On ne s'est pas trop écarté, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a le. On prend un sujet, on va à travers de l'autre, et puis on perd
C'est ça.
le fil initial est perdu, quoi.
Exactement, on perd l'objectif. Et la troisième chose, et c'est pour le coup vraiment international, qu'on parle ou qu'on ne parle pas la même langue. Des fois, quand on ne parle pas la même langue, c'est plus facile de se comprendre. Croyez-moi, c'est la communication. J'ai tellement vu de oui, est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris, mais ils se comprennent, mais ils ne parlent pas de la même chose. Donc,
Exactement, là, t'as des gaps forts
voilà.
de com.
Donc, c'est des sujets, voilà, c'est des problèmes, on va dire, qui reviennent très, très, très souvent. Et la communication, donc pour pallier, pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on veut, ne pas hésiter à reformuler, reposer la question, est-ce que
Ouais,
j'ai
bien
bien compris
creusé.
que c'était ça, en reformulant, en précisant un contexte. C'est vrai que ça agace, parce que je l'ai vécu, hein, ça agace certaines personnes parce qu'ils le prennent pour elles,
Ouais,
parce
comme
qu'elles
si
vous
c'était
disent,
mal
mais
exprimé, et puis pour le coup, que
oui.
c'était des personnalités un peu impatientes. Mais on perd du temps, là, j'ai déjà dit ce que je devais dire, etc.
C'est ça, mais tu sais bien, je parle de telle version, c'est ma version, oui, mais justement, mais tu es une version en avance de moi. Donc, c'est pour ça que je te demande de préciser dans
C'est
quelle
l'illusion de
version.
s'être compris qui est un des plus grands risques, d'ailleurs, c'est ça, dans la com.
Ah, ça, c'est le pire. L'hypothèse et l'assumption, les suppositions, oui, ça, c'est ce qui cause la majorité des bugs. Donc, pour moi, c'est ça.
Ça fait mal dans le bout de la chaîne, quoi.
Il y a un petit couac.
Ça marche, ouais, donc c'est intéressant. Ouais, compréhension de la qualité, les silos naturels, tendances humaines, et puis le grand prisme de la communication pour que tout ça puisse fonctionner, ouais, effectivement.
Effectivement.
D'accord. Et si on rentre dans notre SWOT, du coup, de la transversalisation de la qualité, on va démarrer par le, je ne sais pas si c'est le plus simple, mais allez, par les premières lettres, du coup, strength, weaknesses, force et faiblesse pour toi de la qualité. Tu vois, alors ça peut être basé sur ton expérience, mais ce que tu vois aujourd'hui, est-ce que tu sens aussi, ce que tu sens arriver, qu'est-ce que tu vois, toi?
Alors, personnellement, je vais sortir du cadre agile, pas agile, parce que clairement, c'est pas ça qui fait que, en tout cas, je l'ai observé, hein. Des fois, j'ai vu des projets, des situations en réussite alors qu'ils n'étaient pas en mode agile. Clairement, on a une réussite lorsque tout le monde comprend l'objectif de ce qu'ils font, l'objectif de leur produit, et qu'ils se sont posé la question et qu'ils ont la réponse aux deux pourquoi. De pourquoi et pourquoi en deux mots.
Deux mots, ouais, d'accord.
Voilà. Parce que si on ne se pose pas ces questions, il y a un moment, encore une fois, on va tous aller chacun dans son petit silo naturel, en pensant qu'on s'est bien compris, quand c'est bon, tu m'as dit ça, je vais faire ça. Alors quand finalement, si on regarde tous l'objectif commun, ben, il se peut qu'on soit à côté de la plaque. Donc clairement, si déjà on a tous la même compréhension de son objectif,
D'accord.
parce que c'est vrai que les personnes vont définir leur objectif en fonction de leur rôle. Donc ça, oui, ok, très bien. Mais comme on le voit, il est différent.
Ouais,
Donc
exact.
moi, l'objectif qui m'intéresse, c'est l'objectif par rapport au produit.
But
Quel
commun
est...
et qu'on peut réussir à unifier les gens, c'est ça, sur
C'est
différents
ça
produits.
sur quelque chose de commun sur le produit. Quel est ton objectif par rapport
Oui.
à ce produit et comment on va collaborer? Là, j'arrive à mon deuxième point qui est extrêmement important et c'est le gage de réussite, c'est la collaboration. Donc, si on a les mêmes objectifs, réussite du produit, qu'on comprend à quoi sert le produit, pourquoi on veut faire ce produit-là, une fois qu'on a bien compris ça, l'étape d'après, c'est la collaboration. C'est la collaboration qui va faire qu'on va rajouter de la qualité encore un peu plus, un niveau au-dessus de ce qu'on peut faire. Ça va obliger les personnes à se parler, à travailler ensemble, à
À questionner
échanger leur
aussi ce
point de
qu'ils
vue.
font, hein, c'est ça, parce qu'ils vont
Oui.
devoir décliner leur vision commune sur leurs tâches quotidiennes. Et puis, s'ils avaient prévu de faire des optimisations techniques, ils vont quand même se poser la question, est-ce que ça sert vraiment mes objectifs communs, du
C'est
groupe, quoi.
ça. Est-ce que ça nous sert vraiment? Est-ce que ça va servir le marketing? Est-ce que ça va servir le business? Est-ce que ça va servir les utilisateurs? Est-ce que ça va servir juste au TI pour leurs histoires de performance ou de place? Mais peut-être que ça leur sert tellement que ça va améliorer un autre point de vue. Tout ça, c'est des échanges et c'est une compréhension globale des interventions des uns et des autres. Si tu veux. Voilà, pour moi, c'est vraiment les forces qu'une équipe puisse avoir pour réussir un sujet, un
D'accord.
produit. Ça, c'est sûr.
Ok.
Les
Et dans
faiblesses?
la partie moins positive, du coup.
Alors, clairement, bon, on en a un petit peu parlé là, des trois points. Donc, la compréhension, les silos naturels et le manque de communication. Donc, ça, on en a parlé. Mais si je peux rajouter un facteur encore plus aggravant, on va dire que ce que j'ai vu, moi, de mon expérience, c'est lorsqu'on met de la hiérarchie et de la valeur entre les intervenants sur un produit. Et quand je parle d'intervenants, ça peut être DevQA, ça peut être chef de projet équipe, ça peut être un service par rapport à un
Voilà,
autre.
plus gros paquet, c'est ça. Enfin, voilà,
Ouais,
product
interne,
owner
externe,
dev, product dev op,
voilà.
machin, bref.
C'est exactement ça. À partir du moment où... Alors là, c'est au-delà des silos fonctionnels, hein. On met vraiment de la hiérarchie parce qu'on peut ne pas avoir un silo, mais on a mis une hiérarchie entre les internes et les externes. On a mis une hiérarchie entre l'IT et les marketing. On a mis cette hiérarchie de valeur, c'est-à-dire que voilà, là, il va y avoir un problème. À un moment ou à un autre, il va y avoir un problème parce qu'il y a une partie qui va être plus écoutée
Mais...
parce qu'elle aura culturellement et inconsciemment plus de valeur qu'une
voir
autre.
ou de valeur, etc. Ouais, ou elle sera plus
Exactement.
supportée.
Et
Ou...
là, ça accélère on va dire, la mésentente,
Ouais, le déséquilibre, en fait, c'est
le
ça. Donc...
déséquilibre sur les objectifs communs. Les personnes vont moins se sentir investies, vont moins se sentir concernées parce que leur point de vue aura moins de valeur que d'autres. Donc, voilà, clairement, ça, c'est quelque chose d'assez important que j'ai vu qui vraiment va accélérer les échecs des projets. Hein. Voilà. Si je peux en mettre un autre, ça, on va dire, c'est ignorer les risques. Alors, il y a une culture qui est plus forte à ça, c'est-à-dire que ce qui, ben, notamment la France qui n'aime pas trop entendre parler de risque et qui dit risque et dit mauvaise gestion, mais c'est pas trop lié, mais je sais que c'est culturel. Donc, il y a une autre manière d'aborder ces risques-là. Mais clairement, si on se dit oui, non, tout va bien, il n'y a pas de problème, ça va aller. Non,
Ouais, les gens
on
qui n'osent
est.
pas affronter, les formaliser, les reconnaître, c'est ça presque. Ce que tu disais, c'est que ce serait presque un aveu de faiblesse en fait de les reconnaître et on préfère du coup les. On verra plus tard si ça passe, tant mieux, sinon.
Exactement, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bon, bah, tant pis. Oui, enfin, tant pis, ça dépend pour qui. Effectivement, je pense pas que le PDG aimerait entendre ça, le tant pis, mais c'est ça. C'est à partir du moment où on se sent tous concernés et la gestion de risque et donc détecter les risques dès le début, parce qu'on est dans un projet informatique évolue, il n'est pas stable, il vit.
Ouais, les gérer vraiment régulièrement, les mettre à jour, et puis
Voilà,
j'imagine les
ça fait
factualiser, les
partie.
libérer, parce qu'il y a toujours les gens un peu confiants en eux. Ouais, non, c'est bon, on y va, ça passe, c'est bon, je gère. Mais en fait, si on regardait un peu
Et
factuellement la mesure du risque, on se dit, ah, oula, non, c'est trop risqué. Enfin,
c'est ça. Et puis le je gère, c'est t'as mis le doigt sur quelque chose. Bah, le problème, c'est que tu n'es pas tout seul.
Exact.
Un projet, c'est tout le monde. Et
Exact.
d'ailleurs, je vais en rajouter un petit troisième.
Ouais.
C'est quand. Alors, ça se voit surtout avec les chefs de projet et des directeurs de projet qui vont prendre cette responsabilité sur les processus et les façons de faire et qui vont dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, cette prise de responsabilisation, et donc c'est comme si encore une fois on donnait une valeur à une personne, il a pris cette valeur, il s'octroie cette valeur au-dessus des
Donc
autres.
tu restes, ouais.
Et là, il y a un problème. Les personnes vont, bah, pareil, vont plus vouloir améliorer le processus, ils vont plus
Ouais, c'est...
vouloir s'engager, ils vont laisser tomber.
Ils vont
Donc,
attendre les prochains changements ou directives de la personne, mais bon, c'est vrai que c'est...
ouais, c'est ça. Mais globalement, voilà, ça, c'est des accélérateurs d'échecs.
Ouais, ça fait un peu les trois éléments, un bon cocktail explosif qu'on voit dans pas mal de projets, malheureusement. Ouais, voilà, mais bon.
Alors, soit on freine, mais on freine tous ensemble de manière collaborative, soit des fois il y a une technique qui dit fail, but fail fast.
Ouais.
Voilà, pour que justement on rebondisse assez vite. Donc, des fois, c'est compliqué quand c'est son projet ou on se sent concerné. C'est son projet, c'est
Oui.
jamais son propre projet, encore une fois. Quand on se sent concerné et qu'on laisse aller dans le mur et se dire, bon, c'est peut-être comme ça qu'on va apprendre.
Réussir, ouais, bah c'est vrai que les organisations changent souvent quand elles se prennent des murs et pas trop avant, quoi. Il y a toujours
Ah ben,
besoin
des fois, ça aide, oui.
de...
Malheureusement, c'est
Mais
ça.
c'est ça.
C'est sûr. Voilà.
Et du coup, dans les... on va switcher dans l'autre partie, la partie opportunité et menace. Qu'est-ce que tu vois? J'imagine, est-ce qu'il y a quelque chose avec le Covid ou pas? Ou est-ce que ça... est-ce qu'on a... il y a quand même du positif là-dessus ou d'autres sujets d'ailleurs hein?
Clairement, je pense que la COVID a accéléré la prise de conscience de l'importance de et la place, on va dire, des TI dans l'entreprise. Moi, j'aime analyser quelque chose, revenir aussi dans le passé et voir son évolution. et pas prendre la chose comme ça isolée. Lorsqu'on voit l'évolution un petit peu de l'informatique et sa place dans notre environnement, dans notre vie et même au sein d'une entreprise, clairement, ça a changé. Voilà, je ne vais pas remonter avant les années 70-80 où l'offre était largement inférieure à la demande. Aujourd'hui, bah, l'offre est largement supérieure à la demande. Donc, voilà, notre monde, notre quotidien est submergé d'outils informatiques,
Technologie, le support
de
des process.
technologies et des choses comme ça. Donc, clairement, il ne faut pas oublier que oui, on le voit au quotidien, mais que c'est la même chose au sein de l'entreprise. Donc, les entreprises qui considèrent que l'IT est un service à part,
C'est
qui est
ce
là
qu'on
que pour
gère, ouais.
répondre, c'est ça, ben, la COVID les a rattrapés. Parce que aujourd'hui, sans l'informatique, ils n'auraient pas pu survivre à distance comme ça où la technologie était fortement demandée. Et c'est à travers malheureusement des situations comme ça, des événements un peu forts et extrêmes, que ça réveille certains d'entre nous. Après, c'est humain, hein. Il y a des personnes qui vont le comprendre, qui vont le concevoir, et d'autres, ils attendent de le vivre. Mais clairement, oui, la place de l'IT est très importante dans l'informatique aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas,
Non, non, c'est pas
on
trop,
peut
pas
plus
dissocié de, un
sous-estimer.
peu comme les modèles qu'on voit aux années 80. Il y a les fonctions support, l'IT, c'est au sous-sol, et puis au-dessus, sales marketing. Bon, c'est un peu,
À
quand il faut
80, moi,
construire
je
des
les ai
offres de
vécues,
produits et de services
hein.
digitaux, c'est un peu compliqué, quoi. Enfin,
Oui. Non, clairement, moi, je les ai vécues encore. Hein. Ça, l'IT au sous-sol, là où ils étaient 3-4 dans une toute petite pièce, parce que ça ne faisait pas partie du cœur de métier, hein, clairement, hein. C'était en 2002. En 2002, et encore, ça commençait à changer là, ici en France. Mais on lit des articles sur cette entreprise. Oui, clairement, dans les articles, c'est bien démontré qu'elle a pris le virage. Cette entreprise a pris le virage un tout petit peu trop tard. Elle n'a pas vendu ses produits à travers l'informatique. Elle a continué à travers des catalogues et bah, un petit peu trop tard.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Bref, c'est la crise cardiaque de l'IT, quoi.
Oui, c'est ça. Et il faut, disons qu'il faut, c'est ça. Des fois, comme tu dis, ça me fait penser à la crise cardiaque là. À une personne, quand on dit attention, trop de café, trop de cigarettes, bah, ça te cause une crise cardiaque. Bah, des fois, il faut.
Ouais, c'est ça.
Certains, ils sont obligés de l'avoir pour le
D'arriver jusqu'au,
comprendre.
ouais, c'est ça. Il n'y en a pas que
Parfois,
d'autres,
elle est
non?
fatale. Voilà, il y en a qu'une et. Et c'est ça. Donc, voilà. Il y a des événements qui peuvent secouer. Il y a un autre événement qui peut secouer. C'est une méthode que j'aime bien utiliser. Là, elle est un tout petit peu moins choquante, quoique. Ça dépend de pour qui. Ça dépend. C'est créer des workshops assez transverses et où je fais intervenir, disons, différents acteurs sur un même produit. Donc, je vais chercher vraiment des acteurs qui sont pour certains extérieurs au projet.
Ah, en plus,
D'accord?
ouais, d'accord, c'est pas que dans la transversalité du projet, c'est aussi aller complètement dehors.
Parce que mine de rien, indirectement, à un moment ou à un autre, ils vont être impactés. Et à un moment donné, ils vont être impactés. C'est les mettre tous dans la même pièce. Si on peut avoir de la direction, des chefs de projet et voire même du CEO, c'est encore mieux. Et bah, commencer à leur parler de la vision qualité, c'est quoi la qualité pour eux, et les
Et qui
laisser.
discutent entre eux aussi, c'est ça.
Exactement. Et là, on va s'apercevoir, parce que peut-être que pour nous, c'est clair que la qualité est quelque chose de très relatif, et que voilà, c'est comme les goûts et les couleurs, hein. La qualité, c'est exactement pareil, c'est très relatif. Ça dépend de l'appréciation de chacun et de comment il voit la chose. Et donc, pour un même produit, chacun va avoir son opinion. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que au lieu que les personnes me parlent et essaient de me convaincre, eh ben, ils vont se retourner entre eux et vont dire, mais non, pour nous, le produit, si on le veut comme ça, c'est pour telle et telle raison.
On commence
Et
à
là, il y a
argumenter.
l'IT qui va répondre. Il y a d'autres qui vont répondre. Le budget va répondre. Le chef de projet va répondre. Et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est de les laisser débattre
Mmh.
pour qu'ils se sentent aussi investis dans le
Ouais.
débat et
Mmh.
pour qu'ils donnent aussi leur point de vue.
Ah, ils
Et pour...
s'expriment, ils se sentent inclus. Enfin, on revient aussi au point humain, en fait, hyper important.
Exactement. Et ne pas, comme on dit, la qualité est une responsabilité de tous. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire dans les
Concret.
faits? Eh bien, c'est une responsabilité de tous, mais on va d'abord commencer à la définir tous ensemble. Et on va commencer d'abord à s'accorder sur le niveau de qualité que l'on veut en fonction du besoin client. Est-ce qu'on le prend en compte ou pas? En fonction des réglementations. Est-ce qu'on la réglementation n'existe pas? Qu'est-ce qu'on fait? On l'attend, on n'attend pas. Ça me fait penser au Tesla, par exemple, où il n'y a pas encore des réglementations réelles sur les voitures autonomes. Est-ce qu'on a, voilà, c'est des questions réelles qu'on doit tous se poser lorsqu'on veut fabriquer un produit, mais pas en silo. C'est-à-dire d'abord les cerveaux, si je peux dire, ensuite
Oui,
la
non, mais
main, et
complètement
ensuite,
hiérarchisé.
voilà. Voilà, un corps humain, il est fait de plusieurs éléments qui communiquent ensemble. Donc, c'est sûr qu'il faudrait maintenir cette communication même pour un produit, surtout lorsqu'on construit. Voilà, ça revient aux objectifs et qu'est-ce qu'on veut. Donc, voilà, ça, en général, les workshops, ça réveille un petit peu tout le monde, là, parce que tout le monde a raison. Et lorsque je dis que tout le monde a raison, là, des fois, c'est quoi? Oui,
Chacun de son
vous
point de
avez
vue, en
tous
fait, t'as
raison.
raison, c'est ça, oui.
Mais c'est ça le but, c'est de leur montrer que voilà, vous avez tous raison. Maintenant, notre objectif, ce n'est pas de donner raison à l'un
Ah, au
plus à
deux.
l'autre. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, là, cette échelle de valeur et voilà, l'IT n'a pas plus raison que marketing et marketing n'a pas plus raison que l'IT, etc. On a tous raison. Vers où on va? Où est-ce qu'on va mettre ce curseur? Et est-ce que les CEO, les directeurs, les chefs de projet, en tout cas ces dirigeants-là, sont OK avec ça? Donc voilà, ça c'est des opportunités qui vont permettre effectivement de mettre en place de la qualité dans une entreprise ou dans un service. Le mieux c'est d'avoir une culture qualité hein, dans l'entreprise.
D'accord, ok. Et
Voilà.
dans les menaces, tu vois, qu'est-ce que tu vois de spécifique? Tu vois des choses spécifiques, toi, non? Ce qu'on devrait faire attention, ou en tout cas essayer de gérer, et justement pas ignorer ces risques-là.
Ben je pense qu'on a commencé à en parler tout à l'heure. Je pense que clairement, les plus grandes menaces pour une entreprise, hein, ce n'est même pas un produit, c'est les personnes qui n'ont pas compris. Là, je sens un tout petit peu de la qualité, mais ça revient à ça. C'est vraiment les personnes qui n'ont pas compris la place des TI dans l'entreprise. S'ils n'ont pas compris que c'est avec l'IT qu'on va avoir, disons, un résultat, ça va être grâce à l'IT qu'on va pouvoir peut-être vendre nos produits. Ce n'est pas que la qualité du produit lui-même. Voilà, il y a des focus. Des fois, tu vends un produit, tu vas te focuser sur ton produit, mais aujourd'hui, la majorité des ventes sur certains secteurs se fait à travers l'informatique. Si tu n'as pas mis
Là,
le
ils n'ont pas
même
intégré dans
budget,
l'operating ou le business model dans
ça
la
va
chaîne
pas
de valeur,
marcher.
c'est l'IT, elle n'a pas été intégrée en fait, c'est vraiment.
Exactement. Donc ça, c'est malheureusement un fail, même si ton produit, il est bon, il est beau, il est sécuritaire, il est tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a voulu mettre dedans et il y est. Ben, malheureusement, c'est sûr qu'il y aura un problème à un moment ou à un autre, quoi. Donc, c'est vrai que les menaces grandes, hein, ben, mais ça, aujourd'hui, on l'a vu, je pense que les entreprises l'ont vécu avec la COVID. Malheureusement, hein, c'est la COVID qui a réveillé à quel point l'IT était importante pour ta survie. Donc, on dit que c'est vrai que ça a détruit beaucoup d'entreprises et pas tant tout le monde, hein. Il y a des entreprises qui ont très, très, très bien marché et ces
Oui, ça aurait
entreprises-là sont dans l'IT,
explosé.
hein. Ouais. Des autres menaces, clairement, c'est on va redescendre à l'humain.
Okay.
Parce que ce soit l'humain, les services ou les organisations, et derrière tout ça, là, derrière tous ces mots, il y a l'humain. Et l'humain, il est, on va dire, il s'adapte, c'est vrai, mais parfois il met du temps à s'adapter. Et c'est difficile pour lui de changer. Donc, on parle beaucoup d'accompagnement au changement quand on fait des projets. Mais comprendre l'importance des TI, comprendre l'importance de la qualité aujourd'hui dans les TI, comprendre tout ça, ça implique beaucoup de changements d'état d'esprit, changement de culture. Quand on parle de culture, on parle d'à peu près 500 ans d'histoire derrière, là, ou de culture d'entreprise. C'est des choses qui ne sont pas forcément palpables. Donc, c'est très difficile à amener et très difficile à changer. Donc, c'est vrai que c'est des menaces pour ces champs, pour les
Et
virements, en tout cas
nous-mêmes,
la
quoi, d'essayer aussi de
transversabilité, la
manquer,
qualité.
effectivement, d'adresser ça comme une réelle priorité entreprise, on dit du
C'est ça.
changement, une culture qui est orientée sur le pouvoir bouger, etc.
Exactement, c'est bien de mettre le doigt dessus, mais c'est surtout que si on n'amorce pas des changements dessus en mettant vraiment des workshops, des façons de faire, voilà, où on investit du temps, du budget pour ça, ça il y a des menaces pour l'entreprise, c'est sûr, pour sa survie en tout cas. C'est mon point de vue.
Et du coup, j'ai compris là que ça m'a l'air vachement intéressant là, la tactique des workshops au début en transverse, mais j'ai bien demandé aussi qu'est-ce que toi en termes de pratique efficace ou inefficace du coup que tu as mis en place dans la qualité.
Oui, alors effectivement, c'est ce que j'en ai parlé sur quelques tables rondes et dans certains événements. C'est ce que j'appelle le shift tap and spread. Effectivement, pour sortir et permettre aux personnes, donc surtout les QA, hein, là je vise vraiment les QA, qui ont tendance à rester toujours sur des tactiques techniques de test, des stratégies de test, mais tout ça.
L'automatisation, les trucs.
L'automatisation, livrer le plus vite. Alors, tout ça, c'est bien beau, mais si on revient à ce que j'avais dit au début, là, si tout le monde, si tu automatises très bien, mais que les développeurs n'ont pas compris quel est l'objectif, et que même les uns les autres ne savent pas le pourquoi du produit, les deux pourquoi, hein, les deux pourquoi du produit, si les directeurs non plus ne savent pas, mais ils vous imposent une livraison, une date de livraison, mais pourquoi est-ce qu'on est limité à cette date de livraison? Déjà, si on la comprenait, ce serait un
Ça
peu
aiderait
mieux, ça
vachement.
améliorerait les choses. Donc, au fait, le shift tap, c'est un petit peu lève la tête. Lève la tête. Voilà, c'est ça. Et va au-dessus, regarde au-delà de ton projet.
Et en transverse, ouais, c'est ça.
Transverse et surtout au-dessus, au niveau de l'entreprise. Parce que si tu arrives à faire ça, si tu arrives à impliquer toutes les personnes qui sont concernées, donc les personnes qui ont le portefeuille, les CEO, les utilisateurs, si tu les mets tous dans les workshops et que tu essaies de leur faire comprendre qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi le niveau de qualité que vous voulez. Alors peut-être que celui qui a le portefeuille va comprendre pourquoi les QA demandent tel outil qui coûte aussi cher, parce que finalement, les utilisateurs ont demandé quelque chose qui soit aussi
Commence à
performant.
raccrocher des bouts d'histoire qui étaient
Les
avant
pourquoi.
les idées.
Exactement les pourquoi. Donc, au fait, shift up and spread, c'est ça. C'est globalement aller chercher ces accords-là et on va dire la collaboration de toute l'entreprise et des personnes qui sont importantes. And spread, le spread, c'est éparpille globalement, mets les tests là où il faut, mets la qualité là où il faut. Parce que tu vas investir ton temps sur un événement, sur, je ne sais pas moi, tes
Oui,
tests
une
UAT,
priorité.
voilà, tes événements. Mais finalement, si on comprend les utilisateurs, on comprend le contexte, on comprend les environnements, on comprend tout ça, ben, est-ce que ça vaut la peine? Ben non, là, les utilisateurs et les CEO, il est d'accord que finalement, on ne puisse pas tester ça, on ne va pas faire ça, on va tout de suite. Et rapidement, eh ben, ça va impacter la stratégie test. Et on va pouvoir, disons, se concentrer sur ce qui est pertinent. Voilà, c'est le shift up, c'est vraiment tout ça, c'est sortir de ce cadre-là, de ce
Exact, le cadre qui est historiquement en plus associé quality control, etc. Enfin,
quality
on se
control,
sent
exactement.
confortable en plus, ce que tu disais, l'humain est là, tranquille, on fait nos tests, voilà.
Ils ne se posent pas trop de questions. Bon, il y en a certains, on s'accorde, ils ne veulent surtout pas se poser de questions pour ne pas se sentir engagé, pour ne pas se sentir responsable. Mais peut-être que cette personne donne un signe que dans l'organisation, ceux qui
Global.
mettent une faute, ceux qui font une faute ou qui ont, eh ben, on va leur tomber dessus. Donc, tu vois, c'est à travers aussi toutes
Des
ces...
ouais, signaux qu'on détecte et ça, enfin, ce que les gens font, ne font pas, ce que tu disais, l'observation au début qui est hyper importante, hein, et pas
Toujours.
juger, on regarde, on attend un peu, on essaie de
Voilà.
croiser des fils. Ouais.
Ben, les test managers, c'est les QA managers, test managers, peu importe. Ceux qui vont avoir ce lead sur la stratégie, clairement, il faut qu'ils aient vraiment un grand sens d'observation parce qu'il y a plein de choses qu'ils vont voir de manière indirecte. C'est quelque chose qui est extrêmement important, être sensible à ces signaux faibles. Qui vont un jour
Matérialiser
être
ou pour
oui, ils vont être très forts au fait. C'est ça. Donc, Shift Up and Spread, c'est vraiment ma technique. Donc, c'est
D'accord.
vrai que ça bouscule, hein, je ne dis pas que c'est facile, hein, ça bouscule
Ouais,
certains chefs de projet, directeurs. Oula, attends,
qui se
toi, tu es
passe
là,
ici?
toi.
Ouais, c'est ça.
Mais bah, oui, c'est le but et c'est le but de faire une confrontation dans l'objectif toujours du succès du projet, succès du produit. Et voilà, c'est des consensus, c'est des consentements, c'est des accords. Trouver des accords, c'est vraiment pas simple, c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut le travailler. Ici, il y a une énergie, il y a du temps à prendre, c'est là. Parce qu'après, tout roule.
Il faut que ce soit les
Mais.
bonnes priorités bien alignées, quoi.
Voilà, ça c'est en tout cas c'est la méthode que j'ai trouvée la plus efficace à terme. Voilà,
D'accord.
parce qu'après, tout
Et
roule.
au contraire, est-ce qu'il y a des... Bon, c'est pas forcément des pratiques inefficaces, mais même des apprentissages. Tu te dis, bon, si j'avais su ça quand j'ai démarré, j'aurais gagné de l'effort ou de l'énergie ou de la frustration, je sais pas.
Oui, effectivement, j'ai des expériences où j'ai perdu beaucoup d'énergie à essayer de changer tout le monde, parce que pendant très très longtemps, j'étais persuadée que tout le monde avait cette envie de changer, de s'améliorer, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre, et c'est à travers aussi des formations, hein, que j'ai compris qu'effectivement, il y a toujours un tout petit pourcentage de personnes qui ne veulent pas changer. Voilà, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas se poser de questions. Et si toi, tu les prends en compte et tu vas essayer de les
Ouais,
changer
ça
comme
avec
j'ai fait,
le 80% d'efforts pour pas de résultat qu'en plus, c'est ça la
pour
fin.
aucun résultat. Et au fait, c'est pas qu'ils ne valent pas la peine, c'est que tu vas perdre ton temps. Et finalement, ces personnes-là, quel que soit le contexte ou les choses que tu vas mettre en place, ils ne seront globalement jamais d'accord. Donc bon. Ça ne sert à rien d'investir son temps dedans. Donc, une des méthodes, encore l'observation, c'est essayer de les reconnaître vite. Donc, bon, vu que je me suis cassé les dents sur certaines personnes, eh ben, ils sont maintenant assez aiguisés pour les reconnaître.
Un
Donc,
radar
voilà.
rapide.
Donc, je les reconnais, je n'ai pas de problème avec ces personnes-là. C'est des personnes, c'est leur identité, c'est leur caractère. Je ne les blâme pas, c'est comme ça qu'elles ont grandi, c'est comme ça qui fait c'est leur force de survie, on va dire. Donc, je n'ai pas de problème. Par contre, mon objectif, c'est de voir les personnes qui vont être porteurs des changements, etc.
Ouais,
Et
on avait
encore une
tous les
fois,
early wins, etc. Et les autres qui vont suivre, c'est ça.
ouais, il y a tout. Je ne parle pas effectivement aussi des personnes, comme tu dis, des personnes qui vont suivre. Elles, c'est vrai que j'aime bien les inclure quand même.
Mais il faut.
Moi, c'est ça. Moi, j'aime bien quand tout le monde donne son point de vue. Après, des fois, on peut perdre du temps. Mais à partir du moment où la personne a donné son point de vue et qu'elle s'est sentie écoutée, ça veut dire qu'elle s'est sentie importante au projet. Et donc, elle va agir d'une autre manière sur le projet. Voilà, elle va savoir que c'est de la valeur qu'elle apporte.
Ouais, ça, puis on doit peut-être donner des idées, des contributions, etc. Enfin, c'est
Toujours.
projet de la
Parce
copie.
que moi, il y a des profils, effectivement, j'ai. Voilà, je ne sais pas que je suis cartésienne, mais j'aime bien comprendre les choses, on va dire. Et il y a des profils qui sont assez rêveurs. Bon, ça va pas trop avec ma personne. Voilà, mais malgré tout, j'adore ces personnes parce qu'ils m'emmènent loin. Bon, des fois, ça m'emmène
Un
tellement
peu
loin, je
trop
me dis,
loin,
mais
c'est ça.
elle est où la logique? Mais c'est pas grave parce que ces personnes-là me font tourner quand même. Ils me
Ouais.
disent, eh oui, non, mais regarde ça. Ah ouais.
Ouais, tu peux avoir une idée qui donne une autre idée, etc. Et tu fais, ouais, intéressant, quoi.
Voilà, donc une des on va dire des choses inefficaces, c'est de se rassembler avec les personnes aussi qui nous ressemblent. Alors, ça va être efficace, mais ça ne va pas être, on va dire, universel. Donc, tu ne
Ouais,
vas
voilà.
pas parler la même langue de tout le monde, alors que ton but, c'est d'embarquer un maximum de personnes sur un même projet, en produit.
D'accord. Ok. Et du coup, si on takeaways, mot de conclusion, si toi, quel point t'aimerais qu'on retienne du coup de l'échange ou même des pratiques que tu mets en place autour de la qualité?
C'est les 10 ans, on va dire, les comprendre vraiment que chaque projet, je mixe les deux, hein, est unique. Voilà, comprendre le contexte. C'est pas parce que on est dans un même secteur ou ça y est, j'ai déjà fait du web, je sais faire du web. Voilà, vraiment comprendre, c'est vraiment important de comprendre que tout est unique et tu ne peux pas forcément utiliser les techniques qui ont marché dans un contexte, tu ne peux pas forcément les utiliser dans ce même contexte parce que ben, les personnes ne sont pas les mêmes. Donc, ça revient à même à essayer de dire qu'on est tous pareils. Alors oui, on est aussi identiques que différents. On est tous différents. Nos cellules sont différentes. On est intrinsèquement différents et donc les projets sont différents. Donc, partir de ce principe que chaque contexte est différent, déjà, ça va beaucoup aider à venir de manière neutre, on va dire, quand tu abordes un projet. Donc, ça, c'est vraiment important à comprendre ça et vraiment le mettre en pratique
Ouais,
et
faut
pas
enlever
venir.
tous nos biais un peu. On fait des parallèles qui seront peut-être faux dans ce contexte-là, etc. Enfin, faut bien toujours
Oui,
observer.
toujours, c'est encore une fois, hein, même si, imaginons, voilà, tu as fait un pays asiatique, très bien, tu as fait la Thaïlande et tu vas aller en Malaisie en disant, bah, j'ai déjà fait la Thaïlande,
Pareil.
ça va être pareil. Ben non, culturellement, clairement, ils ne sont pas pareils. Ils sont, et encore, ils sont peut-être voisins, mais ils ne sont pas pareils. Donc, je fais ce parallélisme pour vraiment qu'on comprenne que chaque projet, chaque produit est différent. Tu prends les mêmes équipes, tu les fais travailler sur un autre produit, eh ben, il y aura une différence parce qu'il y aura des problèmes techniques différents. Voilà. Et je dis ça pour toutes les personnes, c'est-à-dire que qu'on soit QA, ne pas arriver avec ses gros sabots en disant ouais, j'ai fait ça, donc je sais comment faire. Que ce soit les chefs de projet, j'ai déjà fait du web, ou les développeurs, tout le monde, toutes les personnes concernées, il faut vraiment qu'elles comprennent que chaque projet, chaque produit est unique. À partir du moment où on comprend ça, ben, notre manière de l'aborder va être beaucoup
Être
plus
différent,
calme,
ouais,
zen,
exactement.
différente et on va dire plus neutre au niveau d'échelle de valeur dont on parlait tout
En
à l'heure.
plus, oui, on va aussi se remettre.
Oui. Et la deuxième chose que je dirais, c'est surtout pour la qualité, c'est quand tu arrives et que tu abordes donc de manière neutre ton nouveau contexte, la première chose que tu dois faire, c'est identifier, on va dire, le niveau de maturité de la culture qualité. Alors, je me distingue un tout petit peu du TMMI qui est là vraiment dans les process, mais pour moi, il est au niveau produit, projet. Je dirais vraiment, c'est la culture de qualité au niveau de l'entreprise et de l'organisation. Si elle est qu'au niveau du projet, du produit, il y a un moment donné, il y aura un couac. Ça va être au niveau du budget, ça va être au niveau des dates. Il va y avoir un déphasage, on va dire, entre ce que tu es en train de créer et le rythme de ton entreprise. Donc, il ne faut pas hésiter à. C'est les deux premières choses qu'un QA, ou en tout cas un QA, devrait faire. C'est voilà, venir dans un niveau contexte neutre, savoir identifier cette maturité de la culture qualité.
Ouais, avoir une lecture de
Et
l'organisation en fait.
ouais. Et pour tout le monde, un troisième point, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la qualité est relative. Donc, pas dire non, non, mais je sais que ça devrait être comme ça, ça devrait.
Ouais, chacun a
Il n'y a
raison,
pas.
devrait être et tous les
Voilà.
supports là, ouais.
Ouais, et ça, j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup de débats. On est en 2021, j'ai vraiment beaucoup de débats avec des personnes qui te disent, mais tu es QA, donc tu sais bien que ça devrait être comme ça. Ben non. Non, je ne sais pas, on va le demander au client parce que d'un projet à un autre, c'est différent. On a eu encore un exemple il n'y a pas longtemps là sur des fautes de frappe de type virgule ou espace. Alors, c'est sûr que dans un contexte, c'est peut-être très bas comme erreur. D'accord? C'est un message d'erreur ou c'est un texte. Mais si le texte, c'est les lois, ta virgule va faire changer la loi.
Vachement exactement
Voilà.
vachement pour le
Donc,
sens.
c'est exactement. Donc, tu vois, c'est un petit bug qui nous paraît anodin, mais selon le contexte, il est extrêmement important. Donc, toujours, 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 toujours garder en tête que chaque contexte est différent et que la qualité est relative et qu'il faut savoir l'adapter. Et savoir l'adapter, bah, ça va dépendre aussi de ton environnement, s'il est axé culture ou pas.
Ouais, donc plus
Ça sera
besoin
plus ou
d'être
moins
constamment
facile.
en ouverture et en transverse. D'accord.
Voilà.
Et pour terminer sur une note personnelle, parce que bon, on lit souvent voilà, des livres, des articles, des choses, mais il y a beaucoup trop de contenu versus notre temps disponible. Mais du coup, moi, c'est, je trouve sympa toujours de un peu connaître, toi, au fur et à mesure de ces années, si tu as des contenus qui peuvent être récents ou moins récents, mais qui t'ont marqué ou qui t'inspirent encore aujourd'hui, t'en as quelques-uns à partager?
Oui, alors là, je ne l'ai pas à côté de moi, malheureusement, je l'ai monté. Les deux, en plus, je les ai montés. Disons que le un qui est lié au test, parce que j'aime bien aussi lire un tout petit peu des choses du test, c'est Leading Quality par Ronald Cumming Jones. Voilà, c'est vraiment pas très, très épais comme livre, mais il donne déjà une idée un petit peu de ce shift-up, c'est-à-dire aller chercher la haute hiérarchie pour la qualité. Mais personnellement, j'aime bien aussi, parce que si on revient à ce que je disais au début, là, la communication, c'est extrêmement important. Donc là, ce que je suis en train de lire là actuellement, c'est Je suis chercheur d'or de Guillaume Delude. Qui parle justement de cette communication et de relations interpersonnelles. C'est un livre qui est extraordinaire parce qu'il a réussi à vulgariser et à techniciser, si
Non,
tu
en
peux
même temps,
employer
quoi.
le terme, mettre des techniques sur la manière dont les gens communiquent. Comme il dit, il pose ses premières bases là dès le début, c'est comment ça se fait que des fois un regard suffit et un retour de regard suffit, Par exemple, lors d'un match de foot où voilà,
Oui.
il y a l'attaquant, il a la balle, l'autre qui arrive, un regard suffit pour
Qui a
se
passé le message?
comprendre. Du genre, je vais te donner la balle, après toi, tu vas devoir la passer. Et lui, donc, il n'y a pas eu de communication, pourtant
D'accord.
il y a eu un échange de regards. Et comment ça se fait que des fois, ça se comprend plus que des personnes qui vont se parler?
Pendant 1 heure ou 3 heures en réunion, ouais, voilà, c'est ça.
Voilà. Donc c'est extrêmement riche, extrêmement important. Je ne l'ai pas fini parce que vraiment, chaque chapitre est extrêmement intéressant.
D'accord.
Et pour moi, ça me donne aussi des variantes, d'autres
Ensemble de
techniques.
choses, comme tu disais, des fois revenir dans l'histoire, etc. Et je pense que des fois les livres aussi, au plus on va dans des choses différentes de ce qu'on connaît, on apprend, on s'enrichit beaucoup en fait.
Oui. C'est ça. Et puis, comme j'ai dit au début, hein, moi, je suis très curieuse de l'humain, de la diversité, de la différence entre les personnes. Donc, je suis très, très curieuse de ça et de essayer de faire comprendre les uns avec les autres, se mettre d'accord. Tout ça, ça fait partie de la QA et notamment du shift up, en fait. Voilà.
Oh, c'était super intéressant, une vraie dimension, je pense, humaine et business dans ce qu'on a échangé. On a parlé qu'à un moment, peut-être pour critiquer un peu de stratégie et d'automatisation, mais c'est hyper intéressant comme perspective. En plus, comme tu interviens auprès de pas mal de, enfin, beaucoup de clients, etc., je pense que c'est vraiment des apprentissages très intéressants et actionnables en plus. C'était pas
Oui,
que du buzzword.
tout à fait. Merci
Merci
Antoine, en tout
beaucoup,
cas.
Imane. Puis du coup, on se recroisera à d'autres opportunités. Du coup, merci beaucoup pour ton temps et ton partage. Du coup, à la prochaine.
Merci, merci Antoine, à bientôt, salut.
Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!